Il est 5h57, Mathieu Noël.
C'est vraiment l'urgence de faire un point sur la météo parce que Céline Kallmann vient d'entrer dans ce studio, la présentatrice du journal de 6h. Elle m'a touché la main, elle m'a dit j'ai extrêmement froid, Mathieu, je suis gelé, frigorifié, il fait froid.
C'est plutôt inquiétant
pour mieux vous toucher.
Oui, je pense. Oui.
Je vous laisse dire.
Mais c'est plutôt inquiétant parce qu'elle est à l'intérieur.
En plus, il met dehors.
Oui, effectivement, puisque les températures baissent, on l'a bien compris aujourd'hui, avec des sols qui sont bien froids ce matin et on peut avoir du coup des brouillards givrants sur la moitié nord du pays. Surtout prudence si vous devez prendre le volant. Du côté de Rennes notamment, mais aussi dans le nord-est, hein, où les températures sont très froides. On va voir ça dans un instant. Pour les autres, un ciel souvent maussade avec quelques averses dans le sud-ouest encore. Averses et quelques flocons déjà dans le centre-est et sur la Corse pour ce matin. Mistral et Tramontane chassent encore les nuages près de la Méditerranée où le ciel sera assez lumineux. Et puis le soleil va doucement gagner du terrain. Il brillera largement cet après-midi au nord de la Loire. Petit bémol entre la Bretagne et le Cotentin, où les nuages vont résister. Pour la moitié sud, encore beaucoup de nuages, mais un temps sec, à part sur la région Midi-Pyrénées, où on pourra avoir encore quelques gouttes. Soleil en revanche sur le pourtour méditerranéen, avec du vent, toujours Mistral et Tramontane. Et puis la Corse va rester sous un ciel perturbé. Pluie, neige sur les reliefs au-dessus de 1000 mètres, et puis un petit peu de vent sur les caps.
Un mot des températures?
Elles sont très froides. Hein. Moins 8 degrés à Charleville-Mézières, il en fait moins 6 à Nancy, moins 5 à Reims. À Salon de Provence également, moins 4 à Rouen, moins 3 à Lille, moins 1 à Mulhouse, à Paris, 3 degrés à Lyon et Brest, 6 à Bordeaux ou encore à Ajaccio, 8 à Perpignan. Puis cet après-midi, 2 à 8 degrés, c'est la moyenne. Il en fera 4 à Paris. Il n'y a que près de la Méditerranée qu'il fera un petit peu plus doux puisque la moyenne ira de 10 à 14 degrés.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le goût de l'info, du rire et de l'investigation, surtout depuis le début de cette grande enquête qui fera date dans l'histoire du journalisme. Enquête visant à découvrir qui est le nouveau mec des Varocs.
Mais oui!
T'as un amoureux? T'as un amoureux? C'est qui?
Si vous avez des éléments, appelez vite le 3921. Eva, elle, continue de s'enfermer dans un mutisme vexant. Si, vendredi, dans un moment d'égarement, durant une coupure pub, elle a failli nous raconter sa première nuit avec ce nouvel amant mystérieux, mais elle s'est hélas ravisée in extremis.
Oh, et même... ouais.
Non, heureusement, debout les copains, c'est aussi la plume en fatigue de l'historien d'Europe, Fabrice Dalméda. Et ce matin, 21 janvier 2019, 21 janvier 1793, Fabrice revient sur un des événements les plus emblématiques de l'histoire de France, la décapitation de Louis XVI. Ce sera juste après le journal de celle que j'avais tellement envie d'entendre vendredi que j'avais oublié qu'elle avait posé un jour et que c'était Théo Manval qui l'a remplacée. Du coup, je l'ai annoncé elle, ce qui m'a vivement été reproché par David Doucan, le présentateur de journal de 6h30.
Ah, t'as lancé Céline Kallmann alors que c'était un petit barbu? Bravo.
Merci d'écouter Europe 1. Nous sommes le lundi 21 janvier. Il est 6h, excellent réveil. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 21 janvier. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
On le disait avec Céline Dacosta, le froid va s'intensifier toute la semaine. Dans le journal, nous serons avec la team Marot d'une bande de copains qui se retrouvent à Paris pour aider les sans-abri. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez sur internet participer au grand débat national. Le portail participatif ouvre à 17h. Et puis une enquête est en cours après l'incendie mortel de Courchevel où habitaient une soixantaine de saisonniers.
Europe 1.
Le froid va aller crescendo tout au long de la semaine. Température négative quasiment partout ce matin, excepté sur le grand quart nord-ouest. On attend de la neige dans le nord pour demain. Et forcément, on pense à ceux qui vivent dehors. Les initiatives sont nombreuses pour aider les sans-abri. Reportage avec la team Marot des Amis qui se retrouvent pour apporter du soutien aux plus démunis. Le reportage de Jean-Gabriel Bourgeois dans le 13e arrondissement de Paris.
0 degré ressenti au pied du métro Tolbiac. La team Marot en pleine distribution.
Là, c'est la soupe.
Merci. C'est Papa Noël.
Thierry, 55 ans, vit dehors depuis plusieurs années. Il est frigorifié.
Je suis gelé. J'ai demandé un pull, un t-shirt, des chaussettes et un jean. Merci, très gentil.
Mariana, Stéphanie, Eugénie et leurs copines, souvent des mères de famille, apportent bien plus que des couvertures et des sandwichs. Un moment d'échange avec les sans-abri comme Frédéric, bonnet sur la tête, qui grelotte sous un pont du métro aérien en face de Bercy.
Nous, ça nous permet d'avoir un contact avec le citoyen.
Tout à fait.
On s'aperçoit que dans la vie de quelqu'un, un accident de parcours arrive.
Exactement.
Et que cet accident peut le mettre à terre.
Exactement. On n'est pas à l'abri.
Sabrina est à l'origine de la team Maraude.
Nul n'est à l'abri d'être sans-abri. Aujourd'hui, c'est eux. Demain, ça peut être nous. Il faut leur donner de l'importance à ces personnes-là. Il faut pouvoir leur accorder du temps, leur apporter de quoi se nourrir, de quoi se réchauffer.
Et dans son sac de couchage devant la gare d'Austerlitz, Benjamin se réchauffe avec un peu d'humanité et un gobelet de soupe de légumes.
Reportage signé Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Un nouveau sondage sur la popularité d'Emmanuel Macron. Il a perdu un point à 30% en janvier. Une enquête réalisée jeudi et vendredi après le lancement du grand débat devant les maires dans l'Eure.
Le grand débat, justement, vous pourrez à partir de 17h vous rendre sur le site granddebat.fr.
Un portail participatif ouvert à tout le monde. Sur ce site, il sera possible de faire des propositions pour François qui habite à Vincennes et qui n'a pas forcément le temps d'aller débattre. Le site est pour lui très pratique.
L'avantage, il est là, c'est que plus de gens peut-être vont pouvoir se saisir du dispositif et du coup participer au grand débat sans avoir besoin de prendre une après-midi de congé pour aller je ne sais où à 100 km de chez eux et participer à la réunion et parler 3 minutes parce qu'il y aura 150 personnes. Je vais prendre le temps de regarder du coup à chaque fois les différentes thématiques qui ont été proposées, là, les 4 thèmes. Si en 15 minutes j'ai fait le tour, eh ben, voilà, ça me prendra 15 minutes. Si ça doit me prendre une heure, ça me prendra une heure. De toute façon, ça sera utile. Ça m'aura permis, en tant que citoyen, de réfléchir à différentes questions politiques et d'élaborer mon point de vue.
Un propos recueilli par Pierre Herbulot pour Europe 1. Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à Versailles à 150 patrons étrangers. Le sommet Choose France a pour objectif notamment de rassurer les géants du business mondial après 10 semaines de crise de gilets jaunes. Dans l'actualité également aujourd'hui, le retour d'Alexandre Benalla devant le Sénat hier sur Europe 1 lors du grand rendez-vous. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a reconnu des dysfonctionnements, notamment à l'Élysée. Il a estimé qu'il fallait les régler car ils sont, je le cite, insupportables et incompréhensible pour les Français.
Europe 1, il est 6h03.
On ne sait toujours pas ce matin ce qui a provoqué l'incendie mortel à Courchevel dans la nuit de samedi à dimanche.
2 personnes sont mortes, 4 ont été grièvement blessées, 20 plus légèrement. Le feu s'est propagé dans un hébergement de saisonniers. L'enquête devra notamment déterminer si le logement était aux normes. Les premiers témoignages laissent peu de doutes sur le fait qu'il y avait de gros manquements au niveau sécuritaire. Écoutez Frédéric Loiseau, sous-préfet d'Albertville.
C'est un bâtiment des années 70, avec évidemment des normes de construction et des modèles de construction qui sont différents de ce que l'on peut observer aujourd'hui. Mais l'enquête déterminera s'il y a eu des responsabilités dans ce domaine-là. Nous ne savons pas si le bâtiment était aux normes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, hormis les boutiques du rez-de-chaussée, ce n'était pas, administrativement parlant, un établissement recevant du public. Ça égage éventuellement la responsabilité du propriétaire.
Frédéric Loiseau avec Rémi Pierre pour Europe 1. Dans l'actualité également, le plan B, Theresa May doit présenter un nouveau texte aux députés britanniques pour éviter un Brexit sans accord. Le tribunal de Tokyo examine dans la journée la demande de libération de Carlos Ghosn. Le PDG de Renault a promis de rester au Japon s'il est libéré sous caution.
Aux États-Unis, cela fait un mois maintenant que les administrations fédérales sont partiellement fermées.
Un mois de shutdown le plus long de l'histoire et c'est toujours l'impasse politique. Donald Trump veut absolument son mur à la frontière avec le Mexique. Les 800 000 fonctionnaires qui ne reçoivent plus leur salaire peuvent compter sur des initiatives solidaires, notamment des banques alimentaires. Reportage dans un restaurant de Washington, pardon, où des repas gratuits sont distribués. Sonia Dridi.
Les portes ne sont pas encore ouvertes qu'une longue file d'attente se dresse devant cette cantine provisoire. Beaucoup ici n'auraient pas imaginé se retrouver un jour à faire la queue pour un repas gratuit. C'est le cas de Paola, fonctionnaire au ministère de la Justice, forcée de travailler sans être payée depuis un mois.
Mon mari et moi sommes des employés du gouvernement, donc il n'y a même pas un seul salaire qui rentre. J'ai eu un bébé il y a 2 mois, on construit notre maison et hier j'ai eu une ablation de la vésicule biliaire. Donc vraiment, ça fait beaucoup.
Ces Américains de tous les âges sont donc très reconnaissants envers l'initiative de José Andrés, célèbre chef américano-espagnol et opposant à Donald Trump. Mike est un contractuel au département de l'agriculture, il est au chômage technique et ne sera pas payé de façon rétroactive comme les employés du gouvernement.
C'est une bénédiction cet endroit, la situation est terrible, tout pourrait être résolu en quelques minutes.
À l'intérieur du restaurant, des volontaires s'activent pour servir des milliers de repas par jour dans un cadre convivial. Au menu aujourd'hui, poulet teriyaki, bol de tofu et macaroni au fromage. Et comme un pied de nez aux élus et au président, cette cantine est située à quelques pas du Congrès et de la Maison Blanche. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
Et puis c'est en ce moment l'éclipse totale de la Lune, un phénomène très rare. La prochaine éclipse, on pourra la voir dans 10 ans seulement.
Et toutes les 5 minutes, il faut savoir qu'Eva Rock, qui est passionnée par cette éclipse, sort du studio pour monter sur la terrasse d'Europe 1 pour voir si on la voit. Elle revient, elle dit on la voit un peu, mais c'est caché par un immeuble. Elle est très très frustrée pour l'instant. Merci, c'était le journal de Céline Kalman. Céline, qui s'est donc offert un week-end de 3 jours, tranquillou, bilou. Un week-end visiblement très arrosé pour user d'une litote. Des amis communs m'ont envoyé quelques clichés.
Quand je vois ces images, je ne suis pas fière de moi.
Ni moi de vous, Céline. Europe 1.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, retour sur un des événements fondateurs de la France moderne, la décapitation de Louis XVI. C'était, comme aujourd'hui, un 21 janvier 1793. Et ce jour-là, dans la foule, paraît-il, une royaliste du nom de Frénégonde Roch avait tenu à venir apporter son soutien au roi en cet instant fatidique. Alors que Louis flippait en voyant la guillotine, elle lui avait dit:
c'est dans la tête.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta, de l'air froid qui nous arrive de Finlande.
Tout à fait, avec des températures bien souvent négatives ce matin. On atteint les moins 8 degrés en ce moment dans les Ardennes. Et même si le soleil va briller aujourd'hui sur la moitié nord, cela ne va pas durer. Une perturbation pluvieuse va arriver dès demain par la Manche. Et en arrivant sur ces sols gelés, elle va nous apporter de la neige en plaine, particulièrement sur la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le centre pour le matin. Puis elle va se décaler vers le Grand Est. 5 à 10 cm de neige au sols sont possibles sur la Champagne, Ardennes, la Bourgogne, l'Est de l'Île-de-France et de la région centre demain après-midi. 3 à 5 cm pour la Normandie, la Haute-France et la région parisienne. On suivra ça évidemment de très près pour vous.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il a deux passions, deux obsessions, le sport et Céline Dacosta, son enivrante collègue lusitanienne. Mais pour arriver à ses fins, Jérôme Lacroix le sait, il lui faut travailler sa voix afin de la rendre aussi virile que celle de David Doucan, le présentateur du journal de 6h30. Alors durant les reportages, il s'entraîne.
Dans le collimateur de la justice depuis plusieurs années, Lionel Gougelot. Lionel Gougelot.
Pas mal, pas mal, pas mal. Mais c'est pas encore ça, on passe au journal des sports. À la une du JDS Jérôme, un derby de folie.
C'est le titre qui barre ce matin la une du quotidien lyonnais Le Progrès. Vous entendez ici la fête dans le vestiaire des footballeurs de Lyon. C'est la photo,
c'est pour une fois un
du
vrai
Progrès. Nous sommes quelques minutes après le coup de sifflet final du toujours très disputé derby face à Saint-Etienne. Les Lyonnais viennent de s'imposer chez le voisin et rival 2-1. Clôture de la 21e journée de Ligue 1. But victorieux inscrit à la 5e minute du temps additionnel par l'attaquant Moussa Dembélé. Alors oui, les hommes du président Jean-Michel Aulas ont eu le succès démonstratif.
Écoutez, c'est une joie spontanée qui est tout à fait naturelle. Il y avait une joie très, très spontanée, très, très juvénile parce que l'équipe est jeune. Et puis, il y a quand même beaucoup de Lyonnais dans l'équipe. Donc, automatiquement, quand on gagne à Saint-Etienne, ça donne un petit peu plus encore de joie spontanée.
Et la victoire permet aux Lyonnais de chipper la 3e place du classement à leurs adversaires du soir. Les Stéphanois sont 4e.
Ça va beaucoup, beaucoup mieux à Marseille.
Un tout petit peu mieux. 9 matchs, près de 2 mois que l'OM attendait un succès. Victoire 1-0 à Caen. Et les Marseillais 7e ce matin à 6 points du podium. Également hier, Red Montpellier 0-0. Victoire d'Angers 1-0 contre Nantes. Et de Bordeaux sur Dijon 1-0 également.
Le handball et les Bleus quasiment en demi-finale du Mondial allemand.
Grâce notamment hier à un nouveau succès 31-20. Face à l'Islande. Dernier match de poule mercredi, France-Croatie. Mais les Français pourraient être qualifiés dès ce soir pour les demi-finales sans même jouer si d'aventure les Croates perdaient contre les Allemands. Le dernier Français en lice à l'Open d'Australie de tennis doit rentrer sur le court dans moins d'une heure. Lucas Pouille affronte le Croate Coric, 12e mondial à partir de 7h. C'est pour une place en quart de finale. 16 mois que Pouille n'a plus atteint ce niveau en grand chelem. Il sort d'une année 2018 bien laborieuse et il doit conserver la bonne dynamique. Dixit Amélie Mauresmo qui l'entraîne désormais.
Continuer de la même façon, dans ses bases de jeu qu'on essaye de mettre en place, dans sa sérénité, dans sa combativité, dans son sérieux mentalement. C'est un match qui risque d'être le plus dur physiquement aussi, etc. Et puis voilà.
Et également aujourd'hui, Djokovic face au jeune russe Medvedev.
On termine, Jérôme, par l'histoire du jour.
Nouveau drame sur un terrain de sport. Un ado de 14 ans s'est effondré hier en plein match de foot avec son club de l'Escar dans les Pyrénées-Atlantiques. Arrêt cardiaque. Et malgré l'intervention de proches, il est décédé à l'hôpital de Pau. Très grand choc dans la commune. Une enquête a été ouverte.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et des frissons sportifs, nous passons sans fioritures, ni transitions en poulet, ni périphrases à rallonge, ni interminables logorées, simplement destinées à rappeler à nos auditeurs qui me prendraient pour un comique que j'ai fait Sciences Po, à la chronique histoire de Fabrice d'Almeida. Ouf, j'ai plus de salive.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice d'Almeida.
Bonjour à tous.
Ce 21 janvier, Emmanuel Macron se rend à Versailles pour accueillir les dirigeants de grandes entreprises mondiales. Or, le 21 janvier est une date qui a un sens particulier en France.
Ben oui, c'est l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI, le propriétaire de Versailles avant la Révolution. Condamné à mort par un vote de la Convention le 17 janvier, l'ancien roi de France est exécuté le 21 janvier 1793 à Paris. Il avait été détenu à la prison du Temple, il s'est levé à 5h du matin. Et il a renoncé à une dernière entrevue avec sa famille quittée la veille de peur que la douleur soit trop vive. Pour son fils, Louis XVI a laissé le sceau royal et à la reine son alliance. Après sa confession, il est conduit en voiture sur l'actuelle place de la Concorde où l'attendait la guillotine. Il était 10 heures, la foule était immense.
Comment s'est déroulée cette exécution, Fabrice ?
Louis XVI gravit calmement les marches. Henri Sanson, le célèbre bourreau et ses aides, le préparent, mains attachées dans le dos, col et cheveux coupés. Profitant d'un silence, Louis XVI tente de faire un discours. « Peuple, je meurs innocent des crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, mais... » Très vite, les tambours couvrent son propos. Henri Sanson finit de l'installer, puis actionne le couperet.
Et pour les répétitions... Ah, pardon, excusez-moi. J'ai failli censurer. C'est tellement gore que j'ai failli censurer le final.
En plus, on était en pleine gravité, là. Et donc, c'est alors que la tête du roi est sortie du panier et montrée au peuple, encore dégoulinante de sang. On criait « Vive la République, vive la nation !» et certains dansaient la Carmagnole.
Et donc, pour les Républicains, c'est une fête, ce
moment. Oui, bien sûr, pour les Républicains, le 21 janvier est traditionnellement fêté en mangeant une tête de veau. Pour se moquer de Louis XVI, il faut espérer que ce plat ne sera pas au menu à Versailles pour les invités du chef de l'État.
Oui, ça, c'est de mauvais goût. Merci beaucoup Fabrice Delmeda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, peu avant 6h15.
Europe 1. Et il est 6h14, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue 2 heures de bonne humeur au plus près de l'actu. Et l'actu ce matin, c'est cet événement qui ne se reproduira pas avant 2022, une éclipse de lune. Pour décrypter ce phénomène, on aurait pu se contenter de demander son analyse à Céline Dacosta.
J'adore la lune.
Par acquis de conscience, j'ai quand même préféré inviter Olivier Lasvernias, président de l'Association française d'astronomie. Debout les copains continue, 2 heures, les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles avec ce matin, les yeux braqués sur la lune.
Visez la lune, ça me fait pas peur.
Depuis 5h42 ce matin et ce jusqu'à 6h43, nous vivons actuellement, regardez par la fenêtre, vous verrez que je dis est vrai, une éclipse totale de lune, phénomène très rare. Nous serons dans quelques instants avec Olivier Lasvernias, président de l'Association française d'astronomie, qui est comme un dingue.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron réunit à Versailles 150 patrons français et étrangers pour une nouvelle édition du sommet Choose France, choisissez la France. Le président de la République arrivera en fin d'après-midi vers 17h, puis participera à un dîner à 20h. La commission des lois du Sénat reprend ses auditions dans le cadre de l'affaire Benalla. L'ancien chargé de mission de l'Élysée va être entendu à partir de 14h. Enfin, le mondial de handball, l'équipe de France a déroulé son jeu face à l'Islande, victoire 31-22. En football, Lyon a remporté le derby à Saint-Etienne, 2-1.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 21 janvier 2019 et l'actualité ce matin, regardez par la fenêtre, c'est cette incroyable éclipse totale de lune. Profitez-en car la prochaine aura lieu en mai 2022. Bonjour Olivier Lasvernias.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous présidez l'Association française d'astronomie. On va vous poser plein de questions sur cette éclipse. On a aussi Eva Rock qui est montée sur la terrasse d'Europe 1.
Je vous confirme.
Eva, est-ce qu'il y a vraiment une éclipse de lune, Eva ? Ou est-ce que c'est
du bluff ? Il y a vraiment une éclipse de lune. Ah. On a failli se casser la figure parce que ça gèle tellement il fait froid.
Ne prenez pas trop de risques, Eva.
Et c'est absolument magnifique le spectacle.
Alors, donc déjà, Olivier Lasvernias, vous êtes notre invité. Comment pouvons-nous observer dans le ciel en ce moment ? Qu'est-ce qu'on voit actuellement ? Comment expliquer simplement une éclipse de lune ? Qu'est-ce que c'est une éclipse de lune ?
Une éclipse de lune, c'est très simple. Hein, en ce moment, c'est la pleine lune. Donc, normalement, la lune est éclairée par le soleil. Le soleil est derrière nous, il n'est pas levé. D'accord. La lune est éclairée par le soleil.
Comme si c'était un spot sur la lune, on la voit.
Et simplement, notre Terre s'interpose entre le soleil et la lune. C'est comme si le photographe faisait de l'ombre sur le modèle qui l'éclaire.
Ah voilà, d'accord. On fait de l'ombre, mais on l'efface pas totalement. On voit la Lune, on la voit rougeâtre.
Alors en fait, si la Terre n'avait pas d'atmosphère, on éteindrait complètement, quand il y a éclipse totale de Lune, on éteindrait complètement la Lune.
Et c'est l'atmosphère qui fait qu'on la voit quand même ?
Simplement, autour de la Terre, il y a une petite couche d'atmosphère.
D'accord.
D'ailleurs, c'est cette couche d'atmosphère qui produit les couchers de soleil rouges.
Hein. D'accord.
Et en fait, c'est tout simple. La Lune est éclairée par une espèce d'anneau de couchers de soleil rouges. Ça diffuse. Et
d'où la couleur rouge.
Voilà, en fait, on voit en ce moment la Lune éclairée par un fin coucher de soleil.
Eva, vous nous confirmez
ça ? La Terre est entre nous et elle.
Oui, je vous confirme. Alors, sauf qu'ici à Paris, malheureusement, on a une pollution qui est due à toutes les lumières de la ville. Donc, on voit ce côté rouge, mais moins flagrant que quand vous êtes en pleine nature, par exemple. Pourquoi il y a des rouges plus ou moins intenses en fonction des éclipses ?
En fait, ça dépend simplement de la qualité de l'atmosphère terrestre à ce moment-là. Il peut y avoir plus ou moins de poussière, des très grosses éruptions volcaniques, par exemple. Ou des tempêtes de sable énormes, etc. Donc l'atmosphère est plus ou moins colorée. Enfin, l'atmosphère colore plus ou moins la lumière du soleil. Mais c'est comme les couchers de soleil, il y en a des plus ou moins rouges.
C'est variable, effectivement.
Et ce qui est important, si vous êtes sur la terrasse, vous pouvez voir d'autres choses. Vous pouvez voir que la Lune est plus lumineuse en haut. Hein.
Oui, tout à fait, je vous confirme. Oui,
c'est
oui,
parce qu'elle n'est pas centrée. Elle n'est pas centrée.
Oui, tout à fait.
On a mis juste notre tête est devant l'objet qu'on photographie, mais on n'est pas au centre de l'ombre. Donc, c'est
plus de luminosité.
Et au-dessus. Vous devez voir aussi deux points brillants. À côté
alors
de la
malheureusement,
lune,
oui, je sais ce que vous voulez me dire, mais je ne peux pas les voir parce qu'il y a un immeuble qui gêne le bas de la lune.
Parce que sinon, voilà. C'est génial.
Ah, ben, vraiment une enquêtrice.
La lune est dans l'axe de Castor et Pollux, et qui sont deux étoiles très brillantes. C'est un très beau spectacle.
Ah, oui,
j'ai vu ça d'en bas tout à l'heure en arrivant, c'est super.
Question pratique, est-ce qu'il faut protéger ses yeux avec des lunettes pour regarder cette éclipse?
Au contraire.
Trop
au contraire.
Tard.
Au contraire, en fait, c'est exactement l'inverse. C'est quand on regarde le soleil qu'on se brûle. Et donc, s'il s'agit d'une éclipse de soleil, c'est le contraire, c'est-à-dire si la Lune s'interpose entre la Terre et le soleil, là, en fait, on regarde le soleil et donc on se brûle les yeux, sauf d'ailleurs pendant la totalité.
Et la preuve en est quand même que la Terre est ronde, hein, pour ceux qui penseraient que la Terre est plate.
Mais en quoi une éclipse de Lune prouve que la Terre est ronde ?
Eh bien, c'est très simple, la Terre, en fait, projette son ombre sur la Lune. Donc, tout à l'heure, à partir de 7h40, quand la Lune va ressortir de l'ombre complet, on va voir cette fois le Soleil qui réapparaît derrière la tête de l'observateur. Et on va voir que le bord de la Terre est rond. Et on peut même, c'est les premières mesures, on peut se rendre compte que la courbure est à peu près 4 fois celle de la Lune. Ce qui nous prouve fort exactement que la Terre est un disque, au moins un disque, peut-être une sphère, et qu'en plus elle est 4 fois plus grosse que la Lune.
Ah, voilà une preuve indubitable. Cette éclipse de Lune nous invite à une réflexion. Ici, la Lune est dans l'ombre de la Terre, elle n'a pas disparu, mais que se passerait-il sur Terre si la Lune n'existait pas?
Ah ben, la première chose, c'est qu'on n'aurait plus de calendrier comme on les connaît. En fait, il y a deux biorhythmes. On a besoin d'un biorhythme matin-soir, là on sait que c'est le matin, et ça c'est le Soleil qui nous le fournit. C'est le premier calendrier, c'est que le jour dure 24 heures. Puis un autre calendrier, c'est celui des saisons. Là, on disait que ça gèle. Ben, en gros, on est en hiver et donc on a un calendrier d'à peu près 365 jours. Mais entre les deux, on a le cycle lunaire qui est justement d'à peu près un mois, hein, qui définit le mois et qui est bien pratique. Et tous les calendriers de toutes les civilisations sont lunaires ou lunisolaires. Hein. Et on serait incapable de voir le temps parce que ça a marqué. Aujourd'hui, ça marque moins bien. Dans nos villes, etc. Mais ça marquait complètement la vie. Et ça marque la vie des campagnes.
Dernière question, je ne sais pas si c'est des croyances populaires ou si c'est scientifique, mais est-ce que la Lune a une influence sur notre humeur, sur la croissance des plantes, sur le nombre d'accouchements, tout ça, c'est des croyances ou c'est avéré?
Alors, c'est très difficile maintenant à estimer, par exemple, le nombre d'accouchements. En fait, évidemment, maintenant, il y a une croyance que c'est comme ça, donc on renforce un certain nombre de services, et puis il y a des accouchements provoqués, etc. Non, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y a une influence. Psychologiquement, en campagne, évidemment, c'est très important.
Bien sûr. Merci beaucoup, Olivier Lasvernias. Vous êtes le président, on le rappelle, de l'Association française d'astronomie. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle que cette éclipse de Lune est visible en France sans équipement spécial. Donc, on l'a dit, en théorie, jusqu'à 7h50. S'il n'y a pas trop de nuages, on remercie également Eva Rock, qui était notre envoyée spéciale sur le toit. Oui, revenez, attention au verglas.
Oui,
Europe 1.
Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le froid polaire est là.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant le journal de 6h30, un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Attention au verglas ce matin.
Les températures baissent, les sols sont bien froids et on peut avoir ce matin des brouillards givrants localement sur la moitié nord. Pour les autres, ciel souvent maussade avec quelques averses dans le sud-ouest. Quelques flocons déjà dans le centre-est et sur la Corse pour ce matin. Du vent près de la Méditerranée qui chasse les nuages et des températures très froides. Moins 8 degrés à Charleville-Mézières, moins 4 à Rouen, 0 à Rennes. Il en fait 6 à Bordeaux et 8 à Perpignan.
Et cet après-midi,
le soleil va gagner du terrain et brillera largement au nord de la Loire. Petit bémol avec quelques nuages qui vont s'accrocher entre la Bretagne et le Cotentin. Pour la moitié sud, encore beaucoup de nuages à part près de la Méditerranée où là le soleil va briller grâce au vent qui va chasser les nuages. Peut-être encore quelques gouttes sur l'extrême sud-ouest. Quant aux températures, 2 à 8 degrés, ce sera la moyenne. Il en fera 4 à Paris, 10 à 14 encore près de la Méditerranée.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures de bonne humeur certes, mais jamais au détriment d'un professionnalisme de chaque instant. Comme vendredi, lorsqu'à 1 minute de l'antenne, je réalisais que mon invité ne s'appelait pas François-Xavier, mais François-Bernard. Nous reviendrons sur le phénomène des gilets jaunes d'un point de vue sociologique avec François-Xavier Huyghe, docteur en sciences politiques, dans la tête des gilets jaunes.
Comment tu l'as appelé ?
François-Xavier Huyghe.
Non,
François-Bernard.
François-Xavier partout, il y a écrit.
Mais non, Mathieu.
Moi, j'ai pris des trucs.
Il sert à vie de rentrer.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Et oui, toujours reprendre son sérieux au dernier moment. À suivre des pros, des vrais. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent leur opinion pour vous aider à vous forger la vôtre. Ce matin au programme, un chef-d'œuvre à ne pas manquer à la télé, nouveau bras de fer entre l'exécutif et sa majorité, et ce chiffre déroutant, vertigineux. Selon Oxfam, les 26 personnes les plus riches du monde détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le grand débat national, les premières réunions ont eu lieu ce week-end dans les mairies, dans les salles des fêtes, mais aussi dans les paroisses. L'Église se saisit de la concertation. Reportage dès le début de ce journal. L'épouse de Carlos Ghosn en appelle au président Macron. Elle lui a écrit une lettre pour dénoncer les conditions de détention de son mari. Et enfin, la large victoire de l'équipe de France de handball, 31-22 contre l'Islande. Les Bleus sont en route vers les demi-finale du championnat du monde.
Europe 1.
Vous pouvez, à partir d'aujourd'hui, déposer vos contributions au Grand Débat National sur le site internet dédié. Je vous en rappelle l'adresse, c'est granddebat.fr. Mais vous pouvez aussi participer aux nombreuses réunions qui ont commencé à s'organiser ce week-end. Les maires sont bien sûr à l'origine de la plupart des événements, mais les prêtres aussi. L'Église catholique française est volontaire pour accueillir des débats. Exemple, à la paroisse de Saint-François-des-Audons à Caen. Cela s'est passé samedi soir en présence d'Hélène Terzian pour Europe 1.
Ils sont une centaine dans la salle paroissiale. Le frère Jean-Pierre donne le coup d'envoi des débats.
Nous espérons apporter notre contribution à la société.
Des petits groupes de 10 se forment autour d'un animateur ici. C'est Christian qui pose la première question.
Quelles sont, selon vous, les raisons du malaise actuel ?
Les réponses convergent. Fracture territoriale, injustice fiscale, discrédit du pouvoir politique. Quelles sont alors les solutions pour surmonter la crise ?
Comment faire pour que les gens aillent voter ?
Les gens sont fatigués et c'est aussi lié à notre système, à nous. Un deuxième tour où il n'y a plus que deux personnes, ça pousse à voter blanc ou à ne pas voter.
La cloche sonne, les groupes doivent désormais soumettre leurs idées à haute voix. Des idées couchées sur papier, accrochées au mur. Et après 2 heures de débat, Nicole tient à prendre la parole.
Je voudrais vous remercier parce que moi je m'occupe de migrants et je m'occupe de gens de la rue. Je suis venue ici pour voir. Je suis ravie de la manière dont ça a été fait.
Paris réussit donc pour la coordinatrice pastorale, Pascale Cauchy.
C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas citoyen. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager, dialoguer entre gens différents. On n'est pas entre nous maintenant, on espère que ça sera entendu.
Elle fera remonter dès aujourd'hui les résultats sur la plateforme du Grand Débat National.
Reportage signé Hélène Terzian pour Europe 1. L'affaire Carlos Ghosn avec son volet industriel d'abord. Bruno Le Maire a vigoureusement démenti les informations de médias japonais selon lesquelles la France aurait plaidé pour une fusion Renault-Nissan. Le ministre de l'économie a précisé que l'État français n'était attaché qu'à la pérennité de l'alliance existante. Le volet humain de l'affaire maintenant. Carlos Ghosn est détenu au Japon depuis le 19 novembre dernier. Son épouse a écrit à Emmanuel Macron. Elle dénonce une garde à vue destinée à faire craquer son mari. Et elle s'exprime pour la première fois dans Paris Match. Un entretien à paraître jeudi prochain, dont Jean-Gabriel Bourgeois nous livre des extraits.
Carlos est un être humain vivant dans des conditions de détention déplorables, voire inhumaines. Ce sont les mots de l'épouse de l'ancien PDG de Renault-Nissan qui confie son inquiétude. Elle demande qu'il soit traité décemment, comme tout présumé innocent. Carol Ghosn a saisi l'ONG Human Rights Watch pour dénoncer, selon ses termes, la violence que son mari subit en prison. Il ne voit pas le jour, la lumière de sa cellule est constamment allumée. Il n'a pas le droit d'écrire ni de s'allonger, sauf aux heures autorisées. Le reste du temps, il doit rester assis, visage découvert, explique-t-elle. L'épouse de l'industriel alerte également sur son état de santé. Il a perdu 10 kilos, il souffre de problèmes artériels et a dû arrêter son traitement pour le cholestérol. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, elle demande à la France d'intervenir pour que Carlos Ghosn puisse sortir de prison et se défendre. « Je sais qu'il va faire face, se battre de toutes ses forces pour son honneur », insiste-t-elle. Sa réputation est la chose à laquelle il tient le plus au monde.
Et j'ajoute que la demande de libération sous caution de Carlos Ghosn doit être examinée aujourd'hui par le tribunal de Tokyo. L'ancien dirigeant vient de faire savoir qu'il promettait de rester au Japon si on le libérait. Alexandre Benalla devant les sénateurs, épisode 2. L'ancien chargé de mission sera une nouvelle fois auditionné par la commission des lois du Sénat aujourd'hui à 14h. Cette fois, il sera question de l'utilisation de passeports diplomatiques après son licenciement de l'Élysée.
À suivre dans ce journal, la France se barricade contre la peste porcine. Objectif, empêcher les sangliers belges contaminés d'entrer sur le territoire. A tout de suite.
Europe 1, 6h34. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, la peste porcine est de plus en plus virulente en Belgique, la France se prépare.
Oui, une zone blanche à la frontière va être mise en place dans les prochaines heures, en plus des barrières déjà installées par les chasseurs. Dans les départements frontaliers, les éleveurs sont très inquiets et ils investissent pour se protéger. Reportage dans la Meuse, Pierre Herbulot.
Des centaines de mètres de grillage et un portail encadrent désormais la porcherie. Sur les grilles flambant neuves, un message, élevage sous protection sanitaire. Véronique Boxebeld, responsable administrative, a pris des mesures drastiques. Personne n'entre sans son accord.
Je m'assure que le camion est propre. Si c'est un fournisseur d'aliments, il devra désinfecter les roues avec le pulvérisateur que vous voyez là et le désinfectant à l'intérieur. Le chauffeur se munit d'une paire de bottes neuves, une combinaison neuve. Et à ce moment précis, donc, j'ouvre le portail électrique et là, il peut entrer.
Deux sangliers viennent d'être retrouvés morts à la frontière à moins de 15 km de là. Un potentiel vide sanitaire, des milliers de porcs à abattre, le spectre de la contamination plane et a déjà des conséquences. L'éleveuse a du mal à vendre ses bêtes.
Ne serait-ce que les abattoirs, on a déjà des gens qui sont malheureusement réticents. On parle de quand même plusieurs centaines de milliers d'euros déjà.
La mise en place d'une zone blanche est une bonne nouvelle, mais il faut aller plus loin, dit-elle. Déployer l'armée et abattre tous les sangliers qui passent la frontière. Brouhen, Pierre Herbulot, Europe 1.
L'État d'Israël a annoncé avoir mené cette nuit des frappes aériennes sur des cibles iraniennes en Syrie après avoir intercepté une roquette tirée depuis le territoire syrien. L'agence de presse officielle syrienne Sana affirme de son côté que la défense anti-aérienne du régime de Damas a riposté. Et puis, nous venons de l'apprendre, l'ELN, l'armée de libération nationale en Colombie, a revendiqué l'attentat qui a causé la mort de 20 personnes et entraîné des blessures pour 68 autres à Bogota la semaine dernière. Une école de police avait été prise pour cible.
On termine quand même par une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. L'Olympique de Marseille a gagné hier pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, 1-0 face à Caen.
Oui, et c'est la première victoire des Marseillais depuis la fin du mois de novembre. L'OM se replace ainsi avec 31 points à la 7e place au classement. Et puis vous le savez, c'est aussi le mondial de handball en ce moment en Allemagne. Les Français continuent leur très beau parcours. Ils ont vaincu hier soir l'Islande 31-22. Les demi-finales sont à portée de main. Christophe Lamarre.
À force de faire des petits pas, ils vont finir par y aller. Les Français n'ont jamais été aussi proches des demi-finales. Une habitude pour une équipe qui les collectionne. 11 depuis 2008, du jamais vu. Les Islandais aimeraient connaître pareil succès. Hier soir, ils ont résisté autant qu'ils ont pu dans cette Lanxess Arena de Cologne qui les a soutenus de bout en bout. Rien à faire. Les Français sont forts, de plus en plus forts, même avec un Nicolas Karabatic convalescent. Et ça, le public allemand l'a bien compris. Le danger a changé de code couleur. Il n'est plus rouge, il est bleu. Et comme si cela ne suffisait pas, les doubles champions du monde peuvent compter sur l'extérieur pour leur donner un petit coup de main. Les Croates ayant perdu leur handball entre le premier et le deuxième tour, les Français pourraient être qualifiés dès ce soir en cas de succès de l'Allemagne sur la Croatie. Cologne, Christophe Lamarre, Europe 1.
Et c'est la fin du journal, mon cher Mathieu.
Bah oui, oui, je vous remercie infiniment. C'était le journal de David Doucan, journaliste efficace, mais également un insatiable beau parleur qui n'en finit pas de semer la zizanie dans le cœur de Céline Dacosta. Car pour arriver à ses fins, le beau parleur peut dire tout et surtout n'importe quoi. Comme par exemple que Céline a un cheveu sur la langue. Fauf qu'on aurait remarqué, je pense.
Il dit qu'il adore mon zozotement.
Oui, il y a un petit zozotement. Il y a un chuintement, très discret. C'est super.
C'est vous qui êtes super, David. Allez, on passe à la météo avec Céline Dacosta.
Évidemment.
Aucun fouettement.
Il y a un petit chuintement sympa.
Un chuintement.
N'importe quoi.
Tant que c'est pas un suintement, ça va.
Céline. Oui, alors là, oui. Alors là, ça devient trash. Alors, Céline. Oui. La météo, il fait très très froid. Attention,
oui, c'est vrai, le froid est
voilà
là.
Voilà ce que je dis aux auditeurs.
Oui. Voilà une occasion que j'aurais été de me taire. Alors, le froid est là, la neige arrive demain. Concentrons-nous. On l'attend entre la région centre et les Hauts-de-France, Normandie, en passant par l'Île-de-France dans la matinée. Perturbation qui va se décaler ensuite vers l'est. On parle de 3 à 5 cm de la Normandie à l'Île-de-France et Nord-Pas-de-Calais, 5 à 10 cm plus à l'est. Aujourd'hui, du soleil sur la moitié nord pour cet après-midi. Encore bien nuageux pour la moitié sud avec un temps relativement sec. Du soleil près de la Méditerranée et des températures très froides, à moins 8 degrés en ce moment dans les Ardennes. Il en fera 4 à Paris cet après-midi. Ce sera encore un petit peu doux près de la Méditerranée avec une moyenne de 10 à 14 degrés.
Merci Céline Dacosta, sans chointement.
Merci. Europe 1. Il est 6h40, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de bonne humeur, mue par l'énergie débordante et communicative de mes complices Eva Rock et Céline Dacosta, qui a toujours la pêche.
Ah, vivement le week-end!
Bref, à suivre. Les trois fantastiques trépignent dans leur starting block politique, économie, médias. Au programme notamment ce matin, les députés marcheurs ne veulent pas de la loi anti-casseurs. Nouveau bras de fer entre l'exécutif et sa majorité.
Il est 6h44, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Emmanuel Macron réunit 150 patrons français et étrangers à Versailles cet après-midi. Comme l'année dernière, c'est le sommet Choose France qui vise à promouvoir l'attractivité française auprès des investisseurs internationaux. Alexandre Benalla devant les sénateurs, épisode 2. L'ancien chargé de mission sera une nouvelle fois auditionné par la commission des lois du Sénat, aujourd'hui à 14h. Cette fois, il sera question de son utilisation de passeport diplomatique après son licenciement de l'Élysée. Enfin, l'État d'Israël a annoncé avoir mené cette nuit des frappes aériennes sur des cibles iraniennes en Syrie, après avoir intercepté une roquette tirée depuis le territoire syrien. L'agence de presse officielle syrienne Sana affirme de son côté que la défense antiaérienne du régime de Damas a riposté.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous les attendiez ardemment. Sans eux, le week-end vous a paru long, beaucoup trop long.
Mais non !
Mais si ! Mais si. Voici les trois fantastiques. Eva Rock nous dit quoi regarder à la télé. Axel de Tarlédou décrypte l'économie. Quant à Mickaël Darmon, il nous parle politique tout en avançant discrètement ses pions dans ce qu'il appelle le dossier d'Acosta. Pour la séduire, il mise, nous l'avons vu, sur sa nonchalance étudiée.
Salut les filles.
Mais aussi sur le compliment. Or, le compliment en drague, c'est comme le message en politique, ça se martèle.
Oh, là, des lunettes. Hein.
Oui.
Bah, ça te va bien.
Je l'aimais quand je suis très fatiguée.
Bah, ça te va bien.
Pas beaucoup dormi.
Ça te va bien.
Ah, c'est gentil.
Vous avez compris. Merci, Mickaël. Je crois que le message est reçu. On passe à la politique avec vous, mon cher Mickaël Darmon. Ce matin, vous nous dévoilez l'envers du décor de la loi anti-casseurs. Le gouvernement presse les députés de se prononcer sur ce texte qui sera examiné mercredi. Mais voilà, ça coince du côté des députés macronistes. Pour quelle raison ?
Eh bien, d'abord, il y a le principe. Hein, ce texte qui doit permettre au gouvernement de durcir la réaction en cas de manifestation donc des Gilets jaunes, eh bien, est jugé comme une atteinte aux libertés publiques. Et ce qui est étonnant, c'est l'ampleur de la contestation. Le projet des députés, au fond, n'est ni plus ni moins que de supprimer les articles de 1 à 7. Sur les deux principales mesures du texte, par exemple, la possibilité pour un maire ou un préfet d'interdire donc, des manifestations avec un filtrage ou également un filtrage sur, avec les fouilles de l'ordre, eh bien, des amendements ont été déposés par Sacha Houlier. Il est soutenu par 50 députés parmi les plus influents du groupe. La députée elle, Paola Forteza, va encore plus loin. Elle a un projet d'amendement pour tout simplement supprimer l'article sur le fichier des casseurs. En clair, les députés de La République En Marche veulent totalement vider le texte de sa substance.
Mais pourquoi cette opposition aussi forte alors qu'on a vu comment les forces de l'ordre pouvaient être mises en difficulté par les manifestants ?
Eh bien, c'était l'opération ni vue ni connue du gouvernement. Hein. Devant agir vite, qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement ? Eh bien, il a tout simplement repris la proposition de loi du sénateur LR Bruno Retailleau avec ses mesures déjà expliquées. Et ce, alors que les sénateurs marcheurs avaient voté contre, donc au Sénat. Sauf que les députés de La République En Marche pointent le tour de passe-passe de l'exécutif. Pas question de faire adopter au pas de charge une loi inspirée par un des opposants les plus virulents à Emmanuel Macron. Même la présidente de la commission des lois est opposée à ce texte. C'est dire, hein, sans parler bien sûr du contretemps, hein, puisque à l'heure où on assiste en fait à une baisse générale des violences, eh bien ça peut être un peu décalé. Le ministre de l'Intérieur, on s'en souvient, n'a pas pu présenter lui-même ses mesures à la télévision. C'est Édouard Philippe qui l'a fait à sa place à la demande du président de la République. Mais cette semaine, je peux vous dire que Christophe Castaner va recevoir les élus récalcitrants et on verra si les députés de la majorité vont réussir ou pas à casser la loi anti-casseurs.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, pour cette analyse. On passe maintenant à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Alors, il y a beaucoup d'économistes souvent qui dénoncent la hausse des inégalités, comme Thomas Piketty. Alors là, on ne peut plus le nier. Les 26 plus riches détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. C'est le constat choc dressé par l'ONG Oxfam, Axel.
Voilà, alors, les 26 plus grosses fortunes du monde, donc ce sont les Jeff Bezos, les Bill Gates, etc., Warren Buffett. Et donc, ces 26 personnes qui pourraient tous rentrer dans un bus, hein, ayez cette image en tête.
Eh bien, ils remplacent même pas le bus.
Voilà, elles ont le même patrimoine que 3,8 milliards d'êtres humains. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup des inégalités de revenus, ce qu'on gagne. Mais là, cette étude Oxfam parle des inégalités de patrimoine, de ce qu'on a. Et les inégalités de patrimoine, elles sont beaucoup plus importantes. Si vous regardez en France, les inégalités de revenus entre le top 10% et le top 10% en bas, les écarts vont de 1 à 10. Mais si vous regardez le patrimoine, ce qu'on a, là, les écarts vont de 1 à 100. On a les chiffres de l'INSEE. Hein. Les 10% des plus gros patrimoines en France, parce que ça ne concerne pas que les grandes fortunes, ces inégalités. Elles ont un patrimoine de près de 600 000 euros, alors qu'en bas de l'échelle, le patrimoine des 10% des Français les plus modestes, il est quasiment nul, hein, c'est 4 300 euros. Et ce patrimoine, tant pour les plus fortunés, tant à augmenter parce que on sait la richesse est captée par les happy few. Puis alors en France, il y a eu un autre phénomène qui a été l'immobilier.
La hausse de l'immobilier. Oui. Alors ces inégalités étant au cœur des mouvements de protestation qu'on observe un peu partout dans le monde, que peut-on faire, Axel ?
Eh bien, on peut mieux répartir la richesse. Alors c'est facile à dire, mais c'est pour ça que cette étude tombe justement à la veille de Davos où il y a tous les grands patrons. Puis l'autre outil, il est fiscal. Lutter contre l'évasion fiscale, contre la taxation du capital. Alors, ce n'est pas des choses qui font plaisir. Hein. L'héritage, les plus-values immobilières, l'ISF, etc.
Merci beaucoup, Axel de Tarlé. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé pour se remettre de nos émotions ?
Du cinéma et du cinéma. En ce lundi soir, il y a deux films d'Éric Rohmer qui sont programmés sur Arte, Comte d'été et Pauline à la plage, que je vous recommande. Si vous préférez les comédies, bien Le flic de Beverly Hills sur W9.
Ça, on l'a peut-être vu, on l'a peut-être un peu trop vu, ça.
Exactement.
Hein,
ou encore Retour vers le futur 3 sur TMC. Et puis, France 3 propose en clair donc, le film de Tom Hooper, Le discours d'un roi.
Et j'espère qu'il le propose en anglais, parce que sinon c'est un peu compliqué quand même.
Je crois que vous pouvez le faire en anglais aussi.
Ouais.
L'histoire vraie de George VI, père d'Elisabeth II, un roi timide, handicapé par un bégaiement et qui va trouver en la personne d'un thérapeute orthophoniste un peu particulier un début de solution.
Mon époux a consulté tout le monde en vain.
Articulé.
Il ne m'a pas rencontré moi. Quel est votre souvenir le plus ancien ?
Je ne viens pas ici livrer mon intimité.
Pourquoi êtes-vous ici alors ?
Pour mon futur bégaiement !
Connaissez-vous des histoires drôles ?
Jamais je n'arrive jusqu'à la chute.
Voilà. Vous avez vu que le doublage en français est plutôt pas mal.
Exactement, je vais vous dire, ça a l'air pas mal. Ouais,
exactement. Alors, au-delà de la reconstitution remarquable de cette époque, le film repose sur le duo Colin Firth dans la peau du roi, face à Geoffrey Rush dans celui du thérapeute. Et alors, le film est réussi parce qu'il oscille entre la comédie et l'histoire politique de la Grande-Bretagne dans les années 30, engagée ensuite dans la lutte contre le nazisme. Et ce discours d'un roi prouve aussi à quel point la communication politique est un instrument de pouvoir. Et je profite d'ailleurs de la diffusion de ce film pour vous conseiller une excellente série qui est disponible sur Netflix qui s'appelle The Crown. Si vous voulez comprendre
comment
s'est construite la monarchie moderne britannique et comprendre le rôle de la reine, et bien c'est la série à voir. Mais sinon, ce soir, c'est Le discours d'un roi sur France 3 à 21h.
Merci beaucoup, Eva Rock. Les Trois Fantastiques seront de retour demain, peu avant 7h moins le quart. Céline, un dernier petit mot gentil pour Mickaël Darmon.
Il est pas mal, hein, Libadou.
On l'embrasse.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprêtent à passer la main, mais inutile de sangloter car le meilleur est à venir. Nico Saliagas arrive et Céline Dacosta qui passe ses matinées avec lui vous le dira, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Pas vrai Céline ?
Moi je changerai que pour les téléphones à clapet.
Ah oui, c'est dire. Le débrief de la matinale de Nico, ça suit.
Il est 6h51. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, d'aucuns d'entre vous pourraient en éprouver un pincement au cœur, une forme de spleen, que nenni. Car n'oubliez jamais que quand je m'en vais, c'est que Nico Saliagas arrive. Et les amis, comme il le dit si justement lui-même...
Ça c'est de la pipe.
Et oui, le meilleur est à venir. De la matinale de Nico Saliagas et même de Pierre de Villeneuve qui est remplacé jeudi dernier. D'ailleurs, ça c'est quelque chose qui va beaucoup vous toucher, Nico. Lorsque vous êtes absent, Céline Dacosta n'est pas bien. Elle est minée, elle broie du noir, comme on a pu le constater jeudi.
Pierre de Villeneuve est dans la place.
Rassurez-vous, Nico, vous restez son chouchou. Ça c'est à l'antenne, mais en off, Villeneuve a essayé de draguer Céline. Il s'est pris un joli vent.
C'est aussi un vrai pull marin. La marine nationale, avec les galons.
Ah, bien.
Vous voilà rassurés. Un beau vent. Vendredi, Nikos.
Ouh là là.
Nikos, vous présentez donc vendredi une spéciale, une matinale spéciale en direct d'un commissariat d'Amiens. Oui. La consigne de la direction d'Europe 1 était d'être au plus proche des forces de l'ordre, juste avant l'acte 10 des Gilets jaunes. Or, pour Carole Ferry, une consigne de la direction, c'est sacré. Elle a donc tout fait pour se retrouver au plus proche des forces de l'ordre, quitte pour cela à leur faire un des coups les plus classiques, mais toujours les plus efficaces, celui de la panne. Bien joué, Carole.
Vous êtes où, Carole Ferry ? Ce matin, on m'a dit que vous aviez crevé tout à l'heure. Je sais que vous êtes à Amiens, on avait un rendez-vous
et
nous l'avons toujours.
Oui, et les CRS m'ont gentiment changé la roue de la voiture. Je les remercie beaucoup. Ils ont été super.
Ouais, joli travail, Carole. Oui, certains membres de la rédaction d'Europe 1 étaient très contents de cette délocalisation à Amiens, mais pas autant que Laurent Cabrol, qui semblait lui carrément sur un petit nuage. Un enthousiasme débordant qui contrastait un peu trop avec la solennité de notre spéciale force de l'ordre, si bien qu'à un moment, Devineau eut pour consigne de tempérer les ardeurs de Lolo.
Señor Laurent Cabrol.
Laurent Cabrol.
Mais j'ai envie de chanter Amiens.
Oui, mais non.
Oui, vendredi, Laurent Cabrol était proprement extatique à l'idée de voir Amiens, une ville qu'il aime tant, qu'oubliant totalement ce pourquoi il était là, à savoir donner la météo. L'esprit de Pierre Bellemare est descendu sur lui. Il s'est mis à nous vendre Amiens façon télé-shopping, en pleine matinale, comme ça, tranquillou.
Et Amiens, quelle ville magnifique, Amiens. Quand vous allez à Amiens, vous ne pouvez pas en repartir. Préfecture de la Somme, la notre ville d'Amiens où nous sommes, qui possède la plus belle cathédrale gothique de France, la plus vaste, 150 mètres de long et 80 mètres de large. C'est vous dire, c'est la plus vaste. Et elle a bien des atouts, cette ville d'Amiens. Vous avez des ortillonnages, on en reparlera tout à l'heure, des ortillonnages qui sont magnifiques, uniques au monde. Vous avez cette maison de Jules Verne, c'est là que Jules Verne a écrit de la Terre à la Lune, le tour du monde à 80 jours, il l'a écrit à Amiens et la maison est transformée en musée maintenant. Mmh. Et le temps.
Ah, le temps.
Bah oui, le temps. Ah oui, le temps. On l'avait oublié. Vous, auditeurs, n'oubliez pas de donner à la recherche. C'est tous ensemble qu'on viendra tous les heures.